Bonjour à tous. Alors, ce matin, je vous pose une réflexion sur ce que la Bible nous dit sur l'être humain à partir de plusieurs textes de la Bible. Le premier se trouve dans le psaume 8. Et nous lirons les versets 1 à 10. Du chef de chœur sur la guitite, psaume de David. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur la terre, toi qui te rends plus éclatant que le ciel. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi vindicatif. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Un deuxième passage que vous connaissez bien, dans le psaume 139. Quelques versets, versets 13 à 16. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'a tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Et un troisième texte, quelques versets de l'épître de Paul aux Romains. Nous lisons les versets 10 à 12 et 23 à 24. Ainsi qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y en a pas un qui soit intelligent, il n'y en a pas un qui recherche Dieu. Tous se sont égarés ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, il n'y en a même pas un seul. Et verset 23 et 24. Tous en effet ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. J'ai choisi ces textes parce qu'ils proposent un double regard sur l'être humain. D'une part, il est créature merveilleuse, de peu inférieure à Dieu, comme on l'a vu dans les psaumes. De l'autre, il est une personne marquée par le péché de façon radicale, sans possibilité de se tirer d'affaire par ses propres ressources, comme l'affirme l'apôtre Paul. La pensée moderne pose un regard essentiellement optimiste sur l'être humain, en tout cas en Occident. Elle se retrouverait dans les versets des psaumes. Par contre, certains chrétiens, certaines églises sont plus prompts à citer l'apôtre Paul dans leur présentation du salut. Il leur est nécessaire de présenter la réalité humaine dans les tons les plus noirs possibles. Comment pouvons-nous accueillir et vivre ces deux approches de l'être humain et voir ce que cela a comme conséquence dans nos relations avec nos amis qui ne sont pas croyants? Commençons par l'homme décrit comme une créature merveilleuse. L'expression « créature merveilleuse » vient du psaume 139, verset 14. C'est ainsi que traduit Segond et les traductions ultérieures. La Nouvelle Bible Segond traduit « J'ai été fait de façon merveilleuse ». Cet adjectif merveilleux naît de la méditation du psalmiste au moment où il réfléchit sur son origine. La façon dont il a été fait est extraordinaire, mais pourquoi dit-il cela? C'est pas très clair dans le texte, car nous n'avons qu'un témoignage limité de son cheminement. Un cheminement qui l'a amené de la fuite de Dieu à la communion reconnaissante avec ce même Dieu qu'avant il fuyait. La seule réponse, la réponse que je trouve dans le texte, par déduction, me semble être le fait qu'il se perçoit comme une créature d'une richesse unique, comme le manifeste sa vie d'adulte avec toutes ses possibilités. Les capacités uniques présentes en lui prouvent le soin que Dieu a porté à sa création, dès sa conception, et prouvent aussi son amour pour lui. Même si le mot amour n'est pas prononcé par le psalmiste. Le psaume 8 est beaucoup plus clair sur ce qui manifeste la grandeur de l'humain. L'être humain, si petit quand on regarde le ciel, la lune et les étoiles, est riche de capacités extraordinaires qui lui permettent de dominer la création, œuvre des mains de Dieu. Cette domination dans le psaume s'exerce notamment sur le monde animal, qu'il s'agisse d'animaux domestiques ou sauvages, et surtout sur les animaux a priori inaccessibles, comme les oiseaux du ciel ou les poissons de la mer. L'humain domine la création. Il est capable de se forger les outils de sa domination pour suppléer à ses limites physiques personnelles. Le psalmiste pense peut-être à des filets de pêche qui permettent de prendre des poissons. Nous, ça nous paraît banal. Mais pour les gens de l'époque, ça n'était pas tellement. Ou peut-être à des techniques comme la capacité à apprivoiser les oiseaux, comme le font les fauconniers. Ce qu'on savait déjà faire à l'époque du psaume 139. Ça nous paraît assez évident, mais c'est quand même pour une population, pour une culture où il n'y avait pas toute la technique que nous avons aujourd'hui, c'est quand même assez extraordinaire d'arriver à faire ça. Vous avez déjà essayé d'attraper un oiseau?
Je comprends assez vite.
Mais pourtant, on arrive à apprivoiser des oiseaux, comme les faucons, encore une fois. C'est l'exemple qui me vient en tête. On arrive à les emprisonner, à les enfermer dans des cages. On manifeste la capacité à gérer cela. Et toutes ces capacités de l'être humain font que le psalmiste peut dire de l'être humain qu'il est de peu inférieur à Dieu. Affirmation choquante que la Nouvelle Bible Segond édulcore un peu en disant de peu inférieur à un Dieu. Et que la Septante, la traduction grecque de la Bible, qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ, avait complètement vidé de son sens en changeant le mot Dieu par ange. Il a fait de peu inférieur à un ange. Mais dans le texte hébreu, la meilleure traduction est de peu inférieur à Dieu. Le but du psalmiste en disant ça n'est certainement pas de choquer, mais bien plutôt de faire référence à Genèse 1, ce récit de la création qui dit que l'humain a été créé à l'image de Dieu. L'homme est de peu inférieur à Dieu, l'être humain est de peu inférieur à Dieu car il a été créé à son image. Dans Genèse 1, versets 26-27, Dieu dit « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, donc il y a image plus ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image, hommes et femmes, il les créa. » C'est bien cette création à l'image de Dieu qui fait de l'être humain un être à part de tous les autres êtres vivants. C'est cette création à l'image de Dieu qui lui donne la capacité de dominer la création, avec aussi l'accès en langage, la conscience, le sens artistique ou la perception du temps comme une histoire. Cette réalité de l'humain créé à l'image de Dieu est restée de l'actualité malgré le péché. En effet, lors de l'alliance avec Noé, il est rappelé que l'homme est à l'image de Dieu, alors que nous sommes bien longtemps après la chute. Je lis en Genèse 9, verset 6, « Celui qui répand le sang de l'être humain, par l'être humain, son sang sera versé. Car à l'image de Dieu, l'homme a été fait. » Donc ça continue. Et les psaumes 8 et 139 que nous avons lus présentent l'humain comme un être merveilleux bien après la chute. Et dans la Bible, ce n'est pas en contradiction avec les affirmations sur le péché qu'on trouve dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, et que les versets que nous avons lus dans Romains 3 sont probablement la meilleure synthèse. Tous juifs et grecs sont sous le péché, ainsi qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas un seul qui soit intelligent, pas un seul qui cherche Dieu. Tous sont égarés ensemble, ils sont pervertis. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, il n'y en a même pas un seul. Et au verset 3, tous en effet, verset 23 du même chapitre, tous en effet ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quelques mots sur ces versets. Il ne faut pas mal comprendre les phrases dans lesquelles Paul affirme « il n'y a personne qui cherche Dieu ou personne qui fasse le bien ». Paul ne dit pas que personne ne fait jamais le bien et que tout le monde ne fait que le mal. Sinon, il sera en contradiction avec ce que lui-même a écrit juste au chapitre 2, verset 14, quand il écrit que les juifs, les non-juifs qui ne connaissent pas la loi, il leur arrive de faire naturellement ce que dit la loi parce qu'ils ont une conscience. Ils ont une conscience. Ils peuvent faire le bien à partir de leur conscience, même s'ils ne connaissent pas la loi. Ce que Paul veut dire, c'est qu'il n'y a personne qui agit systématiquement de façon bonne, personne qui se préoccupe en toute occasion de la volonté de Dieu. Donc c'est important de bien comprendre ça. Et donc, deuxièmement, ce que Paul souligne, c'est que chacun est marqué par le mal, sans exception, au sein de la population humaine. Et au chapitre 7 de Romains, Paul soulignera que cette présence du péché dans l'humain n'est pas maîtrisable par l'humain. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de la présence du péché en nous par nos propres efforts, malgré toute notre bonne volonté, quand il y en a, ce qui n'est pas toujours le cas. L'être humain est en situation de faiblesse par rapport au péché, et Paul utilise l'image de l'esclavage pour en parler. La Bible souligne aussi que le péché prend des formes diverses suivant les individus, mais que globalement, il se manifeste toujours de façon évidente dans les relations, et notamment les relations avec les autres êtres humains. Que ce soit des relations directes ou que ce soit l'organisation et le fonctionnement de la société. Nous sommes invités à accueillir tout le message biblique. Mais comment peut-on concilier dans nos relations cette double perspective de l'homme à la fois créature merveilleuse et pécheur esclave, prisonnier du péché. Avant de poursuivre avec ce que dit la Bible, commençons par souligner que cette double perspective correspond à notre propre expérience du monde et des autres. Nous voyons autour de nous, dans le monde dans lequel nous sommes, à la fois des choses positives et même parfois extraordinaires, dans le monde, y compris chez les non-chrétiens, et nous voyons aussi des horreurs. Nous voyons à la fois de la beauté, de l'amour, de l'entraide, de la créativité, de la générosité, du dépassement de soi. Et en même temps, nous voyons la violence, le mépris, l'égoïsme, le harcèlement, le meurtre, les guerres, etc. C'est l'expérience, notre propre expérience. Et c'est parfois aussi notre propre réalité. Il nous arrive d'agir de façon bonne, parfois de façon moins bonne, et parfois de façon carrément mauvaise. Alors, comment se situer par rapport à cette réalité, notamment avec les gens autour de nous? Le choix de Dieu face à des humains qui sont à la fois des créatures merveilleuses et qui sont en même temps marqués en profondeur par le péché, le choix de Dieu, c'est l'amour. C'est le choix de Dieu. Il bénit chacun par le soleil et la pluie, y compris ceux qui le rejettent. Dieu ne se laisse pas arrêter par la présence du mal dans l'homme, même si ce mal est manifeste et parfois tourné contre sa propre personne. Une des caractéristiques principales de Jésus dans sa vie terrestre, c'est qu'il a manifesté l'amour de Dieu envers chacun, y compris envers des sales types comme Zachée, ou des personnes comme la femme adultère, et toute une série d'autres. Et Jésus souligne dans son enseignement, dans la parabole du fils prodigue par exemple, cet amour de Dieu qui accueille, et qui cherche et qui accueille le péché. Jésus ne nie pas le mal. Il n'hésite pas à le nommer. Mais il refuse d'enfermer l'humain pécheur dans sa situation de pécheur. Il refuse de se détourner de lui et de le condamner. Dieu est saint, mais il ne fait pas le dégoûter devant les pécheurs. Cette attitude de Dieu et de Jésus porte un nom dans la Bible, c'est la grâce. C'est la grâce. Et cette grâce est manifestée, nous le savons, très concrètement dans la venue de Jésus, dans sa vie, son enseignement et finalement sa mort pour nous. L'amour pour Jésus, c'est d'accueillir tous ceux qui viennent à lui sans exception. Des Juifs, des Samaritains, des païens. Des gens qui essayent de suivre la loi avec rigueur, comme les pharisiens. Des personnes qui cherchent à être fidèles. Et puis des pécheurs bien repérés qui n'en ont rien à battre de la loi et de ses commandements. Une des manières intéressantes dont Jésus se comporte avec les gens autour de lui, c'est de souligner le bien, de relever le bien. Jésus a du plaisir à souligner les bonnes choses. Deux exemples. Une que nous connaissons bien, je pense tous, c'est la veuve qui met une petite pierre dans un tronc au temple. Ce n'est pas une disciple de Jésus, je ne sais pas qui c'est, mais Jésus a du plaisir à mettre en évidence ce qui va bien. Et dans le texte de Luc, juste avant la parabole du bon samaritain, je vous lis quelques versets, un spécialiste de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Comment lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Que dit Jésus ? Tu as bien répondu. Tu as bien répondu. Jésus a du plaisir à relever que c'était bien, même si ce n'est pas un disciple, même si c'est une personne qui a essayé de le piéger par sa question. Et je trouve que c'est un bon exemple pour nous, de relever les bonnes choses. Même si globalement tout n'est pas beau, évidemment, mais... Jésus nous demande d'être dans nos relations de cette manière, comme lui. Dans nos relations avec les autres, porteurs de grâce, accueillant, même envers ceux qui ne nous aiment pas forcément, apprenant à accueillir les méchants, comme Zachée, et soulignant le positif dans la vie des gens. Ça doit colorer notre témoignage. Nous sommes appelés à vivre dans ce monde, à apprécier la grandeur de l'humain et de ses réalisations, même si le péché est présent. Nous sommes témoins du Dieu de Jésus-Christ, pas celui des pharisiens moralisateurs. Nous sommes invités à créer des ponts avec chacun, à construire des relations, dans la liberté de reconnaître les bonnes choses et pas seulement de souligner ce qui cloche. J'insiste là-dessus parce que quand je me suis converti, j'ai fait des camps, quand j'étais plus jeune, entre 17 et 21 ans, j'ai fait des camps d'évangélisation. Et pour montrer l'amour de Dieu, j'essayais de convaincre les gens à quel point ils étaient pécheurs et à quel point ils avaient besoin de Jésus. C'est pas génial, hein ? Heureusement que Dieu m'a parlé, que les choses ont évolué, depuis du temps. Nous sommes plutôt invités non pas à tout mettre en noir, même s'il ne faut pas le cacher, mais aussi à souligner ce qui nous rapproche, à marquer les points d'accord. La distance que constitue la foi ne devrait pas créer une distance qui nous empêche de communiquer avec les autres. Sauf si c'est les autres qui créent cette distance. Le fait de croire, au contraire, devrait nous rapprocher des autres, de tous les autres, chrétiens ou pas. Et c'est dans cette attitude, dans cet espace d'accueil et de grâce, qu'émergeront peut-être, ou peut-être pas, des possibilités de témoignage, de parler du Christ, de notre foi, d'inviter à une rencontre, ou simplement d'inviter à lire l'Évangile pour y découvrir Jésus. Alors, que le Seigneur nous aide à être fidèle en aimant ceux qu'il met sur notre chemin, en suivant le modèle de son amour, en étant témoin de son amour, par notre attitude et par nos paroles. Amen.